Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous quotidien de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, avec dans les débats du jour le football italien qui s'enfonce dans la crise depuis le 13 novembre dernier, jour où la Nazionale a manqué sa qualification en Coupe du Monde. Il n'y a plus de sélectionneur, plus de président de la fédération italienne et toujours pas de président de la Ligue Nationale. Quelles sont les raisons de l'effondrement des instances d'un football qui compte 4 Coupes du Monde et plusieurs Coupes d'Europe à son palmarès? Matteo Cioffi nous dira tout depuis Milan. Qui peut rattraper les Citizens? Qui peut les empêcher de décrocher la couronne de champion d'Angleterre qui leur est promise cette année? Peut-être d'autres mancuniens, ceux de United par exemple, qui tentent de ne pas décrocher au classement, ce qu'ils feront encore demain soir face à Tottenham, au moment même où Manchester City se renforce encore, concluant cet après-midi le deuxième plus gros transfert d'un défenseur avec l'international Emeric Laporte, acheté 70 millions d'euros. Les Citizens avaient-ils donc encore besoin de renforts? Le futsal, une variante du football reconnue par la FIFA. L'Espagne domine largement cette discipline en Europe et remettra en jeu dès aujourd'hui son titre en Slovénie, où la France participera pour la première fois à une compétition internationale. Quels sont les favoris de cette Coupe d'Europe de futsal? Et invité aujourd'hui dans ce studio, Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
De France Football.
Je suis plein de bourre là, c'est le mercato, c'est les 48 dernières heures. On dort pas.
Vous dormez? Ouais, j'allais vous
dire. Et on n'est pas fatigué. Bon,
ça va, mais je précise, vous tournez à la San Pellegrino. Exactement. Donc il n'y a pas de problème. Hervé Penaud à vos côtés. Vous dormez, vous, Hervé?
Mais jamais, jamais. Ça veut dire quoi? Je sais même pas, c'est un terme qui n'existe pas dans mon vocabulaire. Bonjour à tout le monde, quel plaisir d'être avec vous.
Bonjour cher confrère de l'équipe, il y a aussi Salim Bomgali. Bonjour Salim.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et
alors
tous.
Alors vous, vous dormez pas?
Si, mais t'en entends
si. Il se passe pas des choses du côté du foot anglais là?
Un peu, et tout le temps en fait. Ah, mais bah, c'est le plus grand des championnats, c'est normal en même temps.
Exactement. Alors on va en parler. Radio Foot, c'est parti.
Et le drapeau qui s'est levé.
De Chiellini.
Et c'est terminé. C'est terminé! Et pour la première fois depuis 60 ans, l'Italie va manquer une Coupe du Monde. C'était le paradis ou l'enfer pour l'Italie. C'est l'enfer pour la Nazionale.
Je suis désolé. Pas pour moi, mais pour le foot italien.
Per il movimento, dispiace perché. Abbiamo fallito un qualcosa che...
Désolé parce que nous avons échoué sur quelque chose qui a des conséquences importantes dans toute la société.
E di conseguenza niente. Questo è l'unico rammarico che ho.
C'est mon seul regret, certo, pas parce que j'arrête.
Dispiace.
Je suis désolé que mon dernier match, disons officiel, se termine par une non-qualification au mondial.
Vous vous en souvenez sans doute tous, c'était il y a 2 mois et demi ce coup de massue encaissé par l'Italie, cette élimination de la phase finale de la Coupe du Monde, le football italien qui pense toujours ses plaies aujourd'hui et des plaies qui semblent même s'agrandir au lieu de s'amenuiser au fil des semaines. Car au lendemain de ce 13 novembre funeste, eh bien de ces inoubliables larmes de Buffon, comme vous l'avez entendu lorsqu'il essayait de s'exprimer au micro de la télévision italienne, eh bien le président de la fédération était parti, le sélectionneur évidemment aussi, et hier aucun élu à l'issue de l'assemblée générale de la fédération italienne, personne apparemment pour succéder à Carlo Tavecchio. Il avait d'ailleurs démissionné en déclarant ceci, écoutez.
Nous avons perdu un mondial, non plutôt la qualification. Et Carlo Tavecchio est désespéré. Pas en tant que président de la fédération, en tant que Carlo. Si ce poteau était entré, Carlo Tavecchio aurait été un champion. Non, c'était la même. Mais ce système, cette politique, cette administration du sport, ça ne peut pas continuer. Les réformes ne peuvent pas être faites au niveau d'un terrain de foot. Elles doivent être faites au niveau global.
Alors, il système, la qualification, et on a pêché quelques mots dans cet italien. Matteo, bonjour.
Bonjour, bonjour, merci de m'avoir rafraîchi la mémoire.
Voilà, excusez-nous de remuer un peu le couteau dans la plaie, cher Matteo. Vous savez qu'ici, on est quand même en préparation de Coupe du Monde, ça ne va faire qu'augmenter. Mais on voudrait, eh bien, avec vous, sculpter un peu ce football italien et expliquez-nous pourquoi, finalement, il n'y a pas de successeur à Tavecchio, pourquoi personne n'est sorti du chapeau hier.
Parce que tout d'abord il y a beaucoup d'argent en jeu, car le calcio est encore une machine à sous, c'est vraiment un riche gâteau, et c'est donc très difficile de trouver un accord et une entente. Le règlement de la fédération prévoit qu'au premier scrutin il faut obtenir 3/4 des votes, au deuxième 2/3, au troisième et au quatrième, lorsqu'il y aura seulement 2 candidats, le gagnant doit rejoindre la majorité absolu, c'est-à-dire le 50% plus 1 des votes. Hier, Gabriele Gravina, un des 2 candidats, a obtenu le 39,06% des votes contre un 59,09% qui ont voté blanc.
Non, mais c'est surtout, Matteo, plus au-delà des scores individuels hier, parce qu'on sait qu'il y avait par exemple Damiano Tomasi, aussi l'ancien joueur qui était candidat, mais en dessous, c'est-à-dire personne ne veut soutenir quelqu'un, pourquoi ? Quel est le problème de ce football italien qui a quand même un si beau palmarès ?
Oui, c'est c'est sûr que l'argent a un poids très important dans ce choix. Mais il y a aussi les grandes rivalités entre les clubs. Vous avez vu, ils ont même pas encore élu le président de la Ligue de Serie A. Chaque président veut avoir plus d'argent, veut avoir plus d'argent de la part des droits liés à la télévision, de retransmission télévisive. Donc il y a plein de questions qui n'arrivent pas à se résoudre, et c'est un système qui est encore sous les chocs d'une élimination auquel personne ne s'y attendait. Donc on est encore dans le commun.
Mais Salim, nous de loin, on a l'impression un peu qu'il manque de tout, c'est-à-dire de guide et de fond en fait, c'est-à-dire peut-être de réorganisation.
Mais comme Matteo le disait déjà, le football italien aujourd'hui, il n'y a pas de président fédé, il n'y a pas de président de ligue, il n'y a pas de sélectionneur. Quand même, c'est l'Italie.
Oui, alors le sélectionneur, évidemment, comme il n'y a pas de président, personne n'ose trop
mais je
se
dire,
risquer.
Mais pas là, quand même, c'est quand même impressionnant d'avoir une nation quadruple champion du monde qui n'a pas toutes ses personnalités.
Et où on ne se bouscule pas au portillon pour être sélectionneur.
Exactement. Alors, c'est dire aussi comme quoi peut-être le football de club a quand même pris le pas sur le football national ou l'équipe nationale. Aujourd'hui, on a presque comme en Angleterre, par exemple. Presque, on s'en fiche un petit peu d'équipe nationale. Les clubs continuent leur vie tranquillement. La Juve, Naples, on en parlera dans quelques minutes, et les autres gros. Au final, l'équipe nationale, alors oui, il y a eu des soucis, mais au final, les soucis, on peut les reporter dans 2, 3, 4 mois. C'est pas très grave. C'est ça qui est effrayant, en fait,
Et surtout, on a l'impression qu'on oublie le peuple, parce que eux, ils ont été malheureux de voir, on voit bien à travers Matteo, comment les Italiens ont été blessés dans leur chair de ne pas disputer cette Coupe du Monde. Hervé.
Oui, ben là, on est quasiment à la limite des états généraux du foot italien. C'est qu'à un moment, faut remettre tout à plat. Et c'est vrai que c'est très, très difficile
En Afrique, on connaît pas mal ça. Hein.
Ah oui, c'est une spécialité.
Non, mais l'Italie se rapproche du Sud.
Et d'ailleurs, pardon, je vous interromps juste.
Pas trop longtemps, par contre. Hein.
On se moque, entre guillemets, on tense le football africain. Ah, les soucis, etc. Là, c'est en Europe, entre guillemets, que ça se passe. Et ben, faut le dire aussi, c'est scandaleux quand même.
C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence, de toute façon, entre ce qui peut se passer dans un pays africain, européen, sud-américain. Sauf quand on fait n'importe quoi, faut le dire.
Mais on le dit plus facilement quand c'est en Afrique.
C'est vrai. Donc c'est important aussi de montrer du doigt ce qui se passe en Italie, mais c'est vrai aussi que le problème de l'Italie, c'est qu'à partir du moment où il y a eu cette élimination, on a l'impression que rien ne va se passer, rien ne peut se passer d'une certaine manière pendant les quelques mois d'après élimination, parce que tout le monde s'en moque un peu, sachant que déjà le sélectionneur ne sera peut-être pris qu'après la saison, puisque de fait il y a pas mal de gens qui sont sur les tablettes mais qui ont des clubs en ce moment. Mm-hmm. Donc déjà sur le côté sélectionneur, être tranquille.
Vous pensez à Ancelotti, vous pensez à Mancini, à Conte.
Et pourquoi pas à notre ami nantais
Ranieri,
qui lui a fait acte de candidature. Oui. Et donc lui, ça lui correspondrait tout à fait
totalement,
à son âge, de finir par la sélection. Donc aujourd'hui, l'histoire du sélectionneur, c'est un truc un peu à part. Alors surtout, moi j'étais un peu surpris quand même qu'hier, on trouve pas quand même un président comme ça de fédération. Là, ça paraissait assez étonnant. Mais ça prouve que le mal est profond, et donc il va falloir se mettre autour d'une table et puis discuter un petit peu plus profondément des sujets qui fâchent, même en Italie.
Nabil.
Bah, moi, je suis d'accord. Déjà, je trouve que la comparaison, c'est juste. J'ai l'impression que l'Italie se rapproche du Sud avec cette vacance de pouvoir. C'est vrai que c'est un problème assez récurrent en Afrique. Moi, je ne vais pas citer l'Afrique forcément subsaharienne, mais je me souviens qu'à l'époque, la fédération algérienne, il y a eu également des situations totalement comparables. Parfois, tous ces problèmes-là sont masqués par une génération dorée. Parfois, vous avez des générations dorées qui peuvent vous permettre de masquer ce genre de problème structurel. C'est pas le cas de l'Italie. Du coup, on n'a pas la fameuse.
Non, parce qu'à l'Euro 2016, on se souvenait de leurs échecs en Coupe du Monde, et puis on voit qu'à l'Euro 2016, ils arrivent même en ayant bien mélangé les anciens et les nouveaux. Quoi.
Oui, on avait l'impression. Déjà, on sentait que sportivement, c'était le déclin.
Oui.
Ils ont eu un Conte énorme aussi qui a réussi à créer cet état d'esprit et cette dynamique positive avec l'équipe. Mais on sentait déjà qu'en termes de joueurs, aujourd'hui, les joueurs italiens ne sont plus les joueurs italiens il y a quelques années. Ah, Matteo, excuse-moi de dire ça. Je ne sais pas ce que t'en penses.
Ah ouais, vous avez raison, c'est pas la même équipe. En deux ans, beaucoup de choses ont changé. Il faut pas se cacher, mais il y a eu vraiment des erreurs qui ont été commises. Par exemple, le choix sur le technicien a été un choix complètement catastrophique, même si Carlo Tavecchio, pour se défendre des accusations, a commencé à dire que c'était pas lui qui avait choisi l'entraîneur, mais Marcello Lippi, chose que tout le monde sait, qui est un gros mensonge. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, et maintenant il faut recommencer à zéro, il faut recommencer avec les jeunes, avec une fédération surtout qui doit être à côté des jeunes. Et c'est ça le grand problème de la fédération, parce que hier il y avait trois candidats, mais il y en avait un seul, Damiano Tommasi, qui a moins de 40 ans. Les autres, ils ont plus de 65 ans. Donc, vous comprenez aussi dans quel état d'esprit on vit ces choses-là. On n'arrive pas à nommer quelqu'un qui est voulu par l'opinion publique. Et c'était le cas de Damiano Tommasi, qui a été immédiatement exclu après le premier scrutin. Ça, c'est pas normal.
Oui. Alors que vous, au point de vue politique, vous avez connu un Emmanuel Macron au pouvoir bien avant nous. Non, mais après, des jeunes dirigeants.
Après, l'Italie, il faut rappeler même que politiquement, c'est un pays de consensus et de compromis. Ouais. Donc, c'est un peu l'ADN aussi de la botte italienne.
Hein. Alors, Matteo, d'autant qu'on sait aussi tous ces soubresauts qui ont secoué le football italien ces dernières années. On pense au scandale Calcio, j'ai un peu oublié les noms.
Calcio Scommesse. Hein,
voilà, Scommesse.
Calcio Scommesse, on a plein de calcio, si
voilà,
vous voulez.
Voilà, oui, je sais bien. Et les problèmes qui ont même atteint des grands clubs comme la Juventus et tout. Et on a l'impression qu'en ce moment, tout ressort et que rien ne se règle.
Oui, vous avez raison, Annie. Ces choses-là sont restées dans la peau, ont taché, disons, l'image même du système calcio dans le monde, qui, il y a tout juste 10 ans, c'était le calcio qui gagnait partout, qui gagnait pas seulement au niveau européen, mais même au niveau mondial. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007, l'AC Milan gagnait la Ligue des Champions. En 2010, c'était au tour de l'Inter. Et aujourd'hui, on a une Juve qui est arrivée en finale, mais elle est arrivée en finale avec un 11 titulaire où il y avait seulement, bon, si on enlève les trois défenseurs et le gardien, tous les autres, c'est des étrangers. On a vraiment des graves problèmes à trouver des bons joueurs italiens parce qu'ils n'ont pas la chance de se mettre, de montrer ce qu'ils vaut. Mais tout reste dedans. Le calcio scommesse, c'est Calciopoli, le racisme aussi.
Exactement,
ça, faut pas l'oublier.
Qui blesse les Italiens, qui blesse tous les tifosi qui aiment ce sport, voir ces idiots qui font ces gestes-là. Ça fait du mal et ça fait pas bien au football, au calcio, ça fait pas bien.
Exactement,
c'est là où se rejoint l'Angleterre et l'Italie, effectivement, pas sur le racisme, mais sur le peu de joueurs utilisés parfois dans les grands clubs à des postes importants. Alors en Angleterre, il y a quasiment que des étrangers, hein, en gros, hein, on l'avait déjà dit, c'est un championnat international, hein, joué en Angleterre. Et là, vous avez aussi de plus en plus un championnat international des clubs, mais avec des joueurs moins forts qu'en Angleterre, évidemment, ou qu'en Espagne.
Mais beaucoup d'étrangers.
Mais peu de joueurs italiens.
Et puis ouais, vous commencez à avoir un exode même des meilleurs talents. La Juve
à Monaco.
On a vu le gamin qui a signé à Monaco. Alors certes, lui, c'est peut-être une exception parce que c'est pour un transfert quand même stratosphérique à 25 millions.
On se souvient du gardien aussi, du jeune gardien qui voulait partir.
Donnarumma,
plutôt de partir que de faire carrière en Italie.
On dirait la Ligue 1, les joueurs, ils rêvent d'aller ailleurs.
Alors Matteo, parlons un peu du championnat de cette Serie A parce que, alors ce qui nous passionne, nous, par rapport à tous les championnats européens, c'est que le suspense continue. Hein. Les deux équipes leaders ne se lâchent pas. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, c'est toujours des victoires de chaque côté. Et toujours Naples devant, avec un petit point de plus. Et d'ailleurs, un peu par miracle, si on écoute Maurizio Sarri, l'entraîneur napolitain, eh bien, il explique que il y a une énorme différence de force de frappe entre les deux équipes et on dirait que presque l'une ne comprend pas que Naples soit devant.
On ne peut absolument pas nous comparer à la Juventus. Leur puissance économique est certainement plus élevée. Et ce n'est pas une opinion personnelle, mais un fait. De plus, leur force technique et tactique est aussi meilleure que la nôtre. Et même cela n'est pas une opinion, comme le confirment les 6 victoires consécutives, et par le fait d'avoir disputé 2 finales de Ligue des Champions ces 2 dernières années. La Juve sait aussi mieux communiquer, et je ne sais dire si c'est dû à l'habilité d'Allegri, ou bien si c'est à cause de moi. Cela dit, en ce qui nous concerne, on aime bien gagner, on aime être beau, et surtout on aime gagner en s'amusant et en étant amusant.
Le plaisir du jeu du côté des Napolitains. Matteo, est-ce que selon vous, Naples, même sans gros moyens, peut tenir longtemps à ce rythme ?
Mais oui, mais Sarri, c'est le premier qui sait cette chose. Est-ce que vous avez confiance en quelqu'un qui a travaillé dans une banque à Nice ? faut pas rigoler.
Je m'abstiens de répondre.
Voilà, écoutez, c'est le premier qui connaît la force de son équipe, même si honnêtement, en ce moment, c'est assez difficile de dire quelle de ces deux équipes mettra les mains sur le titre final. Actuellement, à mon avis, il y a un parfait équilibre entre Naples et Juve. Il faudra quand même raisonner sur 3 aspects. Le calendrier qui semble légèrement plus favorable à Naples. Deuxièmement, il faudra voir les effets des compétitions européennes. La Juve ne peut pas arrêter trop tôt son parcours en Ligue des Champions, tandis que Naples épargnera pas mal de force en Ligue européenne, qui n'est absolument pas un objectif prioritaire. Ensuite, le troisième thème est lié aux éventuelles blessures. Naples, dans quelques semaines, pourra de nouveau compter sur un des joueurs phares de sa défense, c'est-à-dire l'Algérien Goulam, retrouvera aussi son avant-centre Milik, qui permettra au Belge Mertens de ressouffler un peu, tandis que la Juve, de sa part, dans quelques journées de championnat, aura de nouveau à disposition Paul Dybala, même si l'autre jour, il a perdu Cuadrado.
Oui.
Donc, vous voyez, c'est aussi un discours de blessure. Voyons voir qui reste.
Qui tiendra
en vie jusqu'à la fin.
Exactement. Salim,
quand on écoute tous les arguments de Matteo qui sont très bons, c'est vrai. Oh,
heureusement, et c'est Matteo quand même.
C'est vrai que c'est Matteo. C'est vrai, vous avez.
C'est vrai qu'on peut. Pas championnat du monde.
Et c'est vrai qu'on peut se dire, oui, peut-être que Naples a une chance, mais pardon, déjà au match aller, le fameux ouais. Naples Juventus, on se disait, ah. Ça peut être le tournant, ça peut permettre à Naples de passer le cut. Ouais. Au final, un match mièvre de la part de Naples. La Juve qui s'impose 1-0 assez sereinement sur cette pelouse napolitaine. J'attends le 22 avril, là, le week-end du 22 avril.
Ça sera la révélation.
Et ce sera évidemment le révélateur.
Enfin, c'est à la Juve, hein, le match retour.
C'est ça, c'est à Turin. Et pardon, mais je vois quand même très mal, perso, Naples réussir à passer devant la Juve.
Matteo, juste pour terminer assez rapidement, mais parlez-nous de l'Inter. L'Inter qui connaît une série noire terrible.
Oui, c'est un peu un syndrome qui affecte ce club. On commence très bien la saison, la termine de manière affreuse. Spalletti est en train de vivre une situation très semblable à celle vécue avant lui par Andrea Stramaccioni en 2012, Roberto Mancini en 2015. Début de championnat excellent, puis ça a été l'enfer. L'Inter aujourd'hui, c'est une équipe qui n'arrive plus à gagner un match depuis le 3 décembre dernier. 7 rencontres, 5 nuls et 2 défaites. Et les Nerazzurri sont glissés de la première à la quatrième place. Spalletti a obtenu quelques renforts avec l'arrivée du portugais Lisandro Lopez et du brésilien Rafinha qui arrive de Barcelone. Mais le grand rêve, last minute, je l'appelle comme ça, s'appelle Javier Pastore, même oui. Si à mon avis ce transfert est assez compliqué et difficile à réaliser.
Oui, et on se souvient que l'Inter a été, alors on va dire quelques jours pour ne pas dire quelques heures, premier de ce calcio. Mais c'était il y a longtemps. Merci beaucoup Matteo d'avoir été en direct avec nous et on continuera évidemment à suivre avec beaucoup d'intérêt votre championnat italien. On se retrouve, chers amis, juste après la pause pour continuer à parler de football. On ira du côté de l'Angleterre.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
La deuxième partie de Radio Foot International sur RFI avec Nabil Djellit, avec Hervé Penaud
présent.
Et Salim Bankali. Vous êtes tous présents ?
A priori.
Et on n'est pas fatigué.
Bon, alors on continue. On continue et cette fois on prend la direction de l'Angleterre avec une journée de Première Ligue en milieu de semaine. Hein. On joue les coupes le week-end et donc on essaie de se rattraper.
On respecte la tradition en Angleterre, contrairement à la France qui a oublié que la Coupe de France ça se jouait bel et bien en week-end. Ben, la France l'a oublié. En Angleterre, on garde cette tradition. Le week-end, c'est la Coupe. Le championnat, c'est en semaine.
Très bien. Très bonne initiative. Bravo. C'est enfin laissé la place à la Coupe. Nous, en France, on a l'impression que ça passe après tout.
Puis alors, pour la voir, il faut être assez sportif. Hein, c'est le cas de le dire.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, mais c'est que sur des chaînes.
À péage.
Et pas les plus fameuses, on va dire. Bon, en tout cas, il y a une très belle affiche demain soir, n'est-ce pas, Salim ? Ce Tottenham-Manchester United, avec des Spurs qui sont en 5e place du championnat et qui reçoivent des Red Devils, la seule équipe à tenter, on va dire, de garder le contact avec les Citizens.
Ouais. C'est vraiment tenté de loin. Ils ont 12 points de retard sur Manchester City. Oui, après, bon. United a évidemment un objectif, c'est évidemment conserver sa 2e place, montrer que... Au final, c'est pas de gagner ce titre, on le sait, sauf miracle, il y aura pas de titre pour United. En revanche, c'est de se rapprocher de City et de dire et de montrer que oui, on n'est pas si loin de City et surtout qu'avec Alexis Sanchez, on n'est pas si loin de City encore plus.
Bah,
avec ce joueur qui était voulu par Pep Guardiola, eh bien on l'a piqué.
Eh
bien, on va vous montrer qu'avec lui, on est bel et bien plus fort.
En tout cas, le but des 5 équipes qui sont derrière Manchester City, c'est évidemment cette place, ces places européennes, mais notamment l'orgueil de la 2e place, et c'est ce qu'a expliqué José Mourinho.
La saison dernière était difficile, cette saison est également difficile. La saison dernière, nous avons abandonné le combat quand nous avons senti que ce serait trop difficile pour nous concentrer sur la Ligue Europa. Mais cette saison, tout le monde est là. Et contre Tottenham, ils sont 5e, mais ils sont l'une des meilleures équipes de Première Ligue. Donc 5e, 4e ou 3e, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important pour le match, c'est qu'ils ont beaucoup de qualité.
Alors, ils ne peuvent perdre finalement à Tottenham, sinon ils perdraient tout espoir de rester dans la roue.
Oui, alors tout espoir de remporter le titre, encore une fois. On reste et on conserve un mince espoir, entre guillemets. Mais après, effectivement, il reste encore beaucoup de journées derrière. 13 journées, rappelons-le, donc 39 points à prendre, avec des confrontations directes surtout. Donc évidemment, l'espoir reste là pour cette équipe du United.
Si ça restait en l'état des choses, quand est-ce que Manchester City serait sacré champion ?
Alors, a priori, si tout va bien, à 4 journées de la fin, donc ce serait à la fin ou à mi-avril, fin avril. Voilà.
Avec un tel écart, parce qu'on se souvient de Chelsea de Mourinho qui remporte le titre, je crois, au mois de mars.
Mais en fait, pas du tout.
Ah non.
Ça avait été plus tard, ça avait été au mois d'avril aussi. En fait, le record absolu, c'est 5 journées avant la fin du championnat. Le record absolu.
5 journées, c'est énorme, parce que 5 journées, ça veut dire 5 fois 3, 15.
Ouais.
15 points d'avance. Donc 15 points d'avance, c'est le Bayern aujourd'hui. Quoi. Le Bayern en Allemagne qui a 15 ou 16 points d'avance.
Qui eux sont sacrés.
Donc ils pourraient être 5 ou 6 journées avant, ou 7 journées si on va dans une dynamique identique.
Le PSG, quoi.
PSG, non, parce que le PSG a 8 points d'avance. Non, bah 11 maintenant avec 11 avec Lyon. Ouais, ils ont perdu leurs 3 points. 11 points, ça fait que 4 matchs. Hein. 4 fois 3, 12.
Alors, cette équipe de Manchester United, renforcée par Alexis Sanchez.
Juste ça.
C'est bidon.
Ça va être les vrais épouvantails, pour ne pas dire diable, sur le terrain.
Oui, en tout cas, c'est vrai que cette équipe, on s'intéresse beaucoup à elle parce que maintenant, comment elle va jouer au final avec Alexis Sanchez? Aujourd'hui, c'est la question
qu'on
se pose.
Vous le savez.
Non, alors, on se pose des questions.
Pourtant, t'as eu Mourinho cet après-midi.
C'est ça, on a longtemps discuté avec lui. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a un cas. Anthony Martial, il est très bon ces dernières semaines.
Il marque souvent les buts décisifs.
3 buts sur les 3 derniers matchs de Première Ligue. Des buts importants, surtout, des victoires à chaque fois.
Il
reste une journée, donc après il va pas partir là, mais
une journée déjà, de mercato.
Exactement, mais là la question se pose, c'est comment on va jouer sur le terrain. Aujourd'hui, vous avez Lukaku qui est en pointe, vous avez déboursé plus de 80 millions pour lui, vous pouvez pas l'éjecter et le mettre sur le banc. Donc Lukaku en pointe. Alexis Sanchez, vous en avez fait votre star recrue phare de Ligue 1.
Il jouera à gauche.
Vous allez faire jouer. Alors là la question se pose, c'est vous le faites jouer à gauche ou vous le faites jouer derrière
Lukaku. Lingard fait une super saison et en plus Alexis Sanchez a un défaut quand même majeur, c'est qu'il donne pas vite la balle. C'est, mais il a d'autres qualités, hein, mais ça, il la donne pas très vite. Donc, c'est ce positionnement juste derrière l'attaquant, il faut être très rapide dans la passe, dans la qualité de passe. Alors, il voit le jeu, il sent les coups, ouais. Mais il aime bien faire des tours
et,
sur lui-même.
Et Sanchez, cette année, il n'a joué que à gauche, justement, c'est là où il a été le meilleur, mais... évidemment. Donc, si vous mettez Sanchez à gauche, Martial, vous pouvez pas le mettre ailleurs.
Non, mais ça va être intéressant à suivre, parce que de toute façon, même si on est en pleine compétition, ça envoie des messages sur les mercato à venir. Et notamment, cette question autour d'Anthony Martial. Moi, j'ai le sentiment qu'Anthony Martial.
Que Manchester avait déjà payé très très cher.
Ouais,
à l'époque.
50 millions plus 30 millions de bonus qui ne seront jamais réellement payés pour X raisons, parce qu'il faut qu'il devienne ballon d'or ou je sais plus. Enfin, il y a des trucs qui tomberont pas au final, mais ça va être autour de 60, 65 millions d'euros. S'il le met derrière Lukaku, ça veut dire qu'il gère quand même son vestiaire politiquement et notamment le cas Martial qui est performant sur le côté gauche. Moi, je pense, même si la remarque d'Hervé est pertinente, je pense qu'il peut s'associer à Lukaku dans l'axe avec une forme de liberté et dézonner, le laisser en électron libre, aller peut-être plus sur le côté gauche, travailler avec Martial, on verra s'il y a embouteillage ou pas. En revanche, si dès ce soir il est à gauche et on a mis le paquet sur lui et on le met dans les meilleures conditions et on a dealé avec lui, parce que c'est pas que des histoires de fric, c'est aussi une discussion avec le coach, évidemment. Comment tu vas m'utiliser si ce soir il est à gauche,
ça sera
d'emblée
demain, hein.
Demain si demain il est à gauche d'emblée, moi je suis Martial, j'appelle mon agent, je lui dis tu me cherches un club la saison prochaine.
Ouais, enfin, il va un petit peu vite. C'est un impulsif, c'est pour ça, c'est normal.
Non,
vous
savez, si je peux me permettre, Hervé, je ne dis pas ça par hasard, parce que crois que du côté de Martial, la réflexion est plus qu'engagée.
Mais c'est pas ça que je dis. C'est que même si Martial pense la même chose,
et ça veut dire qu'il
pas,
a des infos,
c'est des échos.
Non, mais c'est même pas ça, mon débat. C'est que même si c'est vrai, et j'ai absolument aucun doute là-dessus, c'est pas ça le problème. C'est qu'il faut expliquer aux joueurs de temps en temps qu'à un moment, le football, il y a beaucoup de mouvements et de changements. Les équipes. Lui-même a été en difficulté. Et il faut savoir patienter. Quand vous êtes avec un grand entraîneur comme Mourinho, même s'il a un petit peu moins de réussite qu'à une certaine époque, c'est un peu comme Guardiola. Si je prends ce raisonnement-là, quand il est arrivé et il dit à Agüero, de toute façon, il ne fait pas assez d'efforts, il va rester sur le banc. Alors Agüero, il va dire, maintenant, je vais partir ailleurs parce que je ne joue pas. Effectivement, dans les premières.
Il va peut-être partir en fin de saison.
Dans les premières idées, Agüero, c'était effectivement peut-être pas le joueur type qu'il voulait. Et pourtant, il a regagné sa place sans aucun souci. À Martial de montrer à Mourinho ce qu'il l'a fait déjà. Parce qu'au départ, à un moment, il était remplaçant.
Mais il était pas du tout dans les petits papiers.
Mais Mourinho, vous savez, c'est pas un dogmatique. Lui, il est ultra pragmatique de Mourinho. Mourinho, si Martial, il est bon, Martial, il jouera. Peut-être qu'aujourd'hui, il entre juste après dans la catégorie d'Alexis Sanchez. Mais c'est normal. Quand vous avez Alexis Sanchez et Martial,
oui, et
aujourd'hui.
Il y a un investissement financier qui est quand même stratosphérique. Ensuite, rien ne te dit qu'il peut dézonner Martial aussi.
Mais tout à fait.
Tu vois, rien ne te dit qu'il peut aussi dézonner Martial.
Mais tu parles de l'investissement stratosphérique. Mais souvent, on inverse les propositions. C'est-à-dire, puisqu'on a mis tellement d'argent sur lui, donc on le fait jouer. Non. On le fait jouer, c'est pour ça qu'on met autant d'argent. C'est-à-dire que si Manchester United met autant d'argent sur lui, c'est parce qu'ils veulent le faire jouer. C'est pas tout à fait le contraire. Vous voyez, après, on peut en parler au bout de 3-4 mois si c'est moins bon. Il y a des éléments qui jouent, mais tout de suite, c'est pour le faire jouer.
Après,
pour
avoir une paix sociale, et si ça marche, l'idéal, c'est de laisser Martial à gauche. Enfin, moi, j'ai toujours cru que Martial était plus un deuxième attaquant de 4-4-2, mais bon, bref. Mais ça joue pas comme ça pour lui. L'idéal, ce serait que Sanchez soit efficace derrière.
Ouais, mais il a le même profil que Lukaku, un peu. Donc,
c'est ça. Dans une attaque à 3,
lui c'est à gauche là où c'est pas bon, mais l'idéal ce serait que Sanchez puisse être performant avec Lukaku dans l'axe. Il voulait le faire d'ailleurs avec Griezmann, hein. ça devait être Griezmann Lukaku.
Ah mais Griezmann n'a pas la même qualité. Griezmann il
lâche vite le ballon,
il lâche vite,
mais bon après c'est aussi les grands joueurs, et à un moment ils sont capables de jouer ensemble,
mais
et c'est aussi une forme d'intelligence, c'est
envie aussi, hein.
Et après il y a un autre truc qui rentre
il a pas pu le faire à Barcelone déjà, même à Barcelone et même
à Barcelone
non, mais je parle sur la vitesse de transmission.
Et après, il y a un truc qui rentre en ligne de compte également, c'est que lui ne va pas économiser ses efforts, l'international chilien, parce que la Russie, il la verra à la télé comme moi.
C'est toujours un bosseur. De toute façon, lui, ça a toujours été un bosseur. Ça là-dessus, il n'y a aucun souci.
Il ne se cachait pas.
Il lâche tout. Il lâche rien, lui.
Non, on la verra de près.
Écoutez, moi j'ai pas reçu de billets, pas d'accréditation.
Moi je la verrai de près avec mes amis sénégalais, bonjour à tous, et mes amis marocains, bonjour à vous.
Les Citizens, eux, poursuivent donc leur route en tête, 12 points donc d'avance à ce jour. En plus, ils jouent contre West Bromwich Albion, qui est...
Donc c'est tranquille.
Avant-dernier.
C'est ce que vous voulez dire.
Attention.
Exactement. Oui. West Brom qui sort d'une belle victoire en Cup à Liverpool ce week-end.
Quand même, un mot sur notre ami Pierre-Emerick. Qui est visiblement en partance aujourd'hui, puisqu'on l'a vu à l'aéroport Dortmund pour partir vers Arsenal.
Il y a tellement de rumeurs autour du football anglais qu'on ne va pas s'arrêter sur tout.
Ah non, mais je pense qu'Aubameyang, c'est réglé. Hein.
Hervé. Et... Oui, l'autre jour on l'a vu avec des cartons, on a cru qu'il quittait, mais non,
mais,
c'était juste qu'il avait
des cadeaux.
C'est
vrai qu'on aura l'occasion d'évoquer Arsenal, surtout avec le nouveau système. Quel sera le système mis en place par Wenger quand vous avez la casette?
Ça sera une autre émission.
Bon, on en fera
une. Parce qu'il y a quelque chose de concret quand même.
Voilà.
Eh bien, c'est un défenseur de 23 ans. Alors, vous parliez de prix stratosphérique. Là, je sais pas ce qu'on doit employer comme terme pour un défenseur. 65 millions d'euros plus 5 millions de bonus, tout ce qu'on dit en général, pour Emeric Laporte, qui jouait à l'Athletic Bilbao depuis l'âge de 14 ans, c'est un peu moins donc Virgile la
Van Dijk,
je parle pas hollandais, excusez-moi. 84 millions lui pour Liverpool, mais pourquoi dépenser autant? Pourquoi est-ce que Pep Guardiola se met à acheter comme ça au marché d'hiver et aussi cher?
Alors je vais vous surprendre, mais c'est juste un prix normal. Je rappelle qu'en Espagne, il y a légalement des clauses qui sont mises sur les joueurs en l'occurrence.
C'était pas 222 millions, c'est
mais,
ça?
C'est ça, mais la clause en l'occurrence c'était de 65 millions. Donc le club de Manchester City est venu et a donc proposé cette somme à Bilbao qui était obligé de l'accepter. Après, il y a eu une négociation entre le club de City et Emeric Laporte directement, mais Bilbao était obligé de l'accepter. Juste, je vais vous
comme
dire une chose.
Neymar, ouais.
Parce que pour le coup, je connais très bien la famille Laporte.
Eh ben, très bien.
En fait, donc déjà, Pep Guardiola le voulait il y a plusieurs années, Laporte. Et au final, cela ne s'était pas fait. C'est de lui-même. Je m'explique. Lui, pour deux raisons. D'une part, il ne se sentait pas d'aller à Barcelone et de il n'était pas apte à 100% à ce moment-là, donc lui préférait rester dans son cocon justement à Bilbao.
Alors j'ai une question à vous poser puisque vous semblez bien connaître le dossier. Est-ce que Guardiola a réellement tenté Umtiti?
Alors là, typiquement, je reste sur la porte.
Lui connaît la porte, il connaît pas Pep Guardiola.
Ah d'accord, non mais ça m'intéresse du coup parce qu'on avait aussi parlé du cas Umtiti qui est au FC Barcelone. Et lui, Guardiola pense toujours que les joueurs passés par le FC Barcelone, c'est une bonne idée.
Oui, en revanche, pour rappeler une chose sur Umtiti, c'est que la clause typiquement est très faible pour Samuel Umtiti. Elle est moins élevée que celle d'Emeric Laporte.
Donc il préférait la porte.
Donc mais il voulait vraiment Emeric Laporte. Juste pour compléter une chose, c'est que en plus ça s'est vraiment fait de manière très calme entre les deux clubs. Il n'y a eu aucune tension vraiment entre ces deux clubs.
Mais il l'annonce l'avant-dernier jour quand même.
Les discussions ont lieu depuis un moment en fait entre les deux parties.
Je me demande, toi qui connais bien le cas
la famille Laporte. Même Bernard.
Moi on m'avait expliqué l'année dernière que c'était déjà réglé. Alors voilà ce qu'on m'avait expliqué l'année dernière, que c'était déjà réglé avec Manchester City quand Guardiola était là. Mais le petit hic, c'est que fallait qu'il change d'agent. Ah. Donc il aille avec le frère de
Père Guardiola.
Voilà.
Donc prénom est Père.
Et bizarrement, ce qui a été étonnant, c'est qu'effectivement, il l'a reprolongé à Bilbao. Donc, je me suis dit, c'est dans les tuyaux depuis longtemps, parce que moi, on m'avait dit, de toute façon, ça va se faire, parce qu'il va, rejoindre. Mais il y avait ces histoires.
Qui a fait le deal, alors?
Alors, voilà. La question, puisque t'es dans la famille,
c'est Salim qui a fait le deal.
Après, moi, j'aurais une info sur Manchester City.
Non, alors là, on va aussi être honnête envers les auditeurs. Alors, effectivement, je n'ai pas l'info par rapport à l'agent ou caisse, soyons totalement honnêtes là-dessus.
Faut jamais dévoiler.
En revanche, plus sérieusement, là, sur Emeric Laporte et Pep Guardiola, les deux continuaient régulièrement de discuter ensemble. D'accord. C'est un fait, je peux vous le dire, c'est vraiment continuer de discuter.
Ouais, donc ça n'a jamais été le coupé.
Donc les deux se voyaient bien travailler ensemble dans les années à venir. Est-ce que ça allait se faire dès cet hiver? C'était pas forcément une évidence, mais au final ça s'est fait. Et juste pour compléter également ce propos, encore une fois, les choses ont été facilitées parce que le petit frère d'Emeric Laporte, qui a 14 ans, c'est un attaquant qui est à Agen, en l'occurrence, et qui va rejoindre dans les prochains jours le centre de formation de Bilbao. Bah et disons que la famille a également facilité les choses encore plus pour permettre
ça vaut le coup de connaître la famille.
La biographie de Laporte par Salim Benguela.
Ça sera une édition prochaine.
Il y a un attaquant et apparemment une petite pépite aussi.
Ça sera une édition prochaine. Pep Guardiola a donc pris Laporte, mais pour le mettre où?
Ah bah là, je pense là il y a pas de
en mystère, défense, hein. Bah en défense et en bouteillage. Vous avez Otamendi, Stones, Compagnie, Mangala.
Compagnie
est toujours blessé
sur la feuille de match, bien sûr.
Mangala, c'est sur un fil.
Mangala
pour être gentil.
N'existe pas.
Voilà.
Vous avez Otamendi qui peut être intéressant, qui peut jouer avec lui, qui peut jouer avec Laporte. Et puis Stones. Donc, mais ça sera Stones et, logiquement Stones et lui. Hein.
Oui. Et si vous me permettez, Emeric Laporte est gaucher. C'est pas inutile d'avoir.
Et Otamendi joue à gauche avec un pied droit.
Cet apport-là, cet intérêt-là.
Mais qui perd? Non mais moi tout à l'heure on parlait de Martial.
Moi personnellement,
United,
si vous me demandez mon avis, si je dois choisir entre Otamendi et Stones, je choisis Otamendi tous les jours. Stones, je trouve qu'il est surcoté. côté, même si cette saison, il fait une saison correcte, encore que face à Liverpool, je l'ai vu un petit peu en difficulté, mais il faut prendre un peu de perspective. Il a pas recruté Laporte pour les 6 prochains mois. C'est-à-dire que
oui, c'est, ça.
C'est aussi rajeunir la charnière centrale, mettre de la concurrence.
Évidemment.
Il double tous les postes.
C'est ça.
Ils ont la ligne de défense la plus chère de l'histoire du football, quand même. Ouais. Parce qu'entre Mendy, qu'ils ont pris à 52 ou 53 millions de livres.
Walker.
Walker, qu'ils ont dû prendre à 35 ou 36 millions de livres. Quel est le remplaçant à droite qu'ils ont pris aussi à une somme phénoménale.
Danilo.
Voilà, Danilo, mais... je sais pas combien. Donc c'est, non, c'est un truc phénoménal.
Compagnie, en fait, est souvent blessé quand même.
Oui. Ah non, c'est pas souvent blessé.
C'est récurrent. C'est oui. Tous les deux mois. C'est deux, trois dernières saisons.
N'oublions pas,
on
s'en
souvient.
Compagnie, depuis qu'il est arrivé à Manchester City, il en est à 40 blessures.
Vincent Compagnie, notamment. Moi, je viens d'aller les 50, je crois.
Et encore une fois,
et Mangala n'a jamais malheureusement convaincu.
Mais comme le disait Nabil, c'est un mercato évidemment à long terme, l'achat d'Emerick Laporte.
On connaît Guardiola.
Et surtout en défense centrale. Moi, j'irais plutôt dans votre sens, hein, avec Nicolas Otamendi. Vraiment, il adore Otamendi, c'est un joueur en plus qui marque des buts importants.
On dirait
Mathirano. Donc, vous avez Otamendi et Laporte, ça peut être une défense centrale exceptionnelle.
Et les courses ne sont pas terminées, donc...
Il y a peut-être un petit joueur qui traîne à 25 millions d'euros,
ou un milieu de terrain offensif.
Allez-y, Nabil.
Il y a deux joueurs qui ont été ciblés. Là, il y a une offre qui vient de tomber pour Mahrez, puisque Guardiola... le veut.
Mais il leur reste quoi, 30 heures de négociation.
Et ben voilà, on va voir, ça va jouer dans une fenêtre. Donc
il y a des fax qui partent à minuit moins 5.
Pas de soucis, ça va vite. Hein.
Donc il y a une offre, profite pour donner l'information. Une offre qui a été faite pour racheter les 2 ans et demi de contrat à 68 millions d'euros, 60 millions de livres. Donc il veut récupérer le milieu offensif de Leicester. Et autre joueur également qui est ciblé dès cet hiver ou l'été prochain pour remplacer un Africain, Yaya Touré, c'est Fred, le Brésilien, qui évolue au Shakhtar Donetsk. Oui. Et ça parle d'une offre autour de 45 millions.
Pour remplacer même deux joueurs, Yaya Touré et surtout Fernandinho. Ouais. Parce que Fernandinho, à un moment donné, il va quand même sur la fin, entre guillemets, à City. Pep Guardiola, c'est toujours
cette idée. Pour en revenir à Mahrez, la logique sportive, s'ils arrivent à le faire, c'est doubler les postes sur le côté. Sterling, Sané et Bernardo Mahrez. Donc il veut doubler tous les postes.
C'est pas mal.
Il
a quelques doutes, notre ami de la porte.
Pas du tout.
Sur
Riyad Mahrez, pas du tout. Ça peut être vraiment le cas, parce que lui, à un moment donné, il faut juste rappeler une chose, c'est que Riyad Mahrez a joué le jeu depuis le début de la saison. Il voulait absolument partir. Il est resté. À un moment donné, il reste 30 heures dans ce mercato hivernal. Il a peut-être une chance de jouer la Ligue des Champions. C'est le moment où jamais.
Et quand il se souvient de son dernier mercato, le pauvre Mahrez, qui avait quitté l'équipe d'Algérie pour venir à Barcelone.
C'est plutôt l'équipe d'Algérie qui nous a quittés.
Enfin, à l'époque, oui. C'est ce qu'il avait fait lui. Aussi, les deux nous ont quitté, c'était à ce moment-là.
Ils avaient déjà dépensé 214,5 millions d'euros au mercato d'été. Il n'y a pas de fair play financier pour Manchester City.
Alors, bien sûr qu'il y en a, mais après, n'oubliez pas,
60,
surtout avec les clubs
40,
anglais.
80.
Je vais rappeler une chose. Tout à l'heure, on évoquait Arsenal de manière rapide, même United, on pourrait en évoquer d'autres. C'est que ces clubs restent dans le vert.
Ah oui.
Je le rappelle.
Mais comment ils font, Salim, alors?
Ah, mais il y a plusieurs choses.
Les droits télé, c'est combien?
On évoque évidemment les droits télé. Juste, je rappelle une chose sur les droits télé. Le club qui est relégué en fin de saison, qui sera relégué, qui est à la 20e place, il va tout de même toucher 100 millions d'euros. Malgré cette relégation, puisque les droits télé lui permettent de toucher 100 millions d'euros.
Il achète qu'un joueur.
Le champion d'Angleterre touche 230 millions d'euros. Donc vous comprenez d'ailleurs pourquoi les clubs souvent privilégient la Première Ligue à la Ligue des Champions, qui rapporte beaucoup moins. Ensuite, alors je parle des droits télé, il y a évidemment tout ce qui est billetterie, merchandising, et puis également une chose importante, ce qu'on oublie, c'est les tournées. Vous savez, les tournées estivales qui ont lieu soit en Asie, soit en Amérique, ça rapporte des sommes colossales. Tottenham, à l'issue de cette saison, Tottenham va quand même faire une tournée estivale cet été en Australie et en Malaisie, Indonésie.
Alors, on m'a dit qu'Arsenal avait pris 34 millions d'euros pour aller en Australie.
C'est des sommes aberrantes, mais encore une fois, ces tournées-là permettent à ces clubs de renflouer les caisses et d'être dans le vert, j'insiste.
Enfin, moi, les tournées, ça me fait plutôt perdre de l'argent quand j'en mets, mais.
T'en mets tellement peu. T'en mets assez rarement. Donc,
c'est des tournées sans Pellegrino. C'est la tournée.
David Finzel, une question pour vous. Est-ce que Laporte, on va le surnommer The Door?
On le dira aux Anglais. Peut-être qu'ils savent pas ce que ça veut dire, Laporte.
On leur dira. Il faut vite le sortir avant que ça soit
fou. Le problème, ils vont l'appeler The Door quand il aura pris 3 buts. En étant pas attentif sur une action.
C'est ça.
Mais The Door, la porte.
Voilà, fermée ou ouverte.
C'est Open The Door, ils vont l'appeler.
Bon, en tout cas, ce mercato donc pourrait nous réserver encore quelques surprises. Et c'est ce qu'on verra dans les heures prochaines.
Vous voulez voir des buts, du spectacle, des beaux gestes. D'accord. Il faut venir voir le futsal.
Une compétition parrainée par la FIFA s'ouvre aujourd'hui en Slovénie et il s'agit eh bien de l'équipe de France qui arrive modestement dans une compétition qui s'appelle le Futsal Coupe d'Europe. Effectivement, la discipline où il y a des grandes puissances qui ont misé là-dessus comme l'Espagne, eh bien cette compétition, donc cette discipline reconnue désormais par la FIFA, fait donc un championnat d'Europe. Il y en a à peu près tous les deux ans. On en parle rarement du futsal. Les Français, en tout cas, sont arrivés dans ce groupe d'équipes professionnelles. Là, il s'agit de joueurs amateurs. Ils sont arrivés par la petite porte puisqu'ils sont arrivés par un barrage. Et le capitaine des Bleus du futsal, Jamel Haroun, eh bien, est encore partagé entre rêve de qualification et réalisme de compétition.
Pour l'équipe, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une première et je pense que c'est le début d'une nouvelle ère pour l'équipe nationale. Alors l'Espagne, je suis grand favori de cette compétition. L'Azerbaïdjan, pour pas dire le Brésil bis, c'est une équipe composée aux trois quarts de joueurs brésiliens, naturalisés. On sait qu'on joue deux très gros morceaux et qu'il y aura fort à faire. Il faudra vraiment relever les manches, être à 1000% dans cette compétition si on veut espérer quoi que ce soit, mais avant tout, je pense que c'est une belle vitrine pour le futsal français d'être arrivé déjà à cette étape. Et je pense que ce championnat d'Europe-là va permettre de montrer au futsal européen qu'il faudra à l'avenir compter sur la France sur les prochaines échéances.
Une compétition, le futsal finalement...
Il est intéressant Raymond Domenech là. Hein.
N'est-ce pas hein.
Ah ouais, la même voix.
La même voix, les mêmes ressorts.
J'espère qu'ils vont descendre du bus, hein, ces joueurs, mais bref.
C'est fort, c'est la vie, bravo.
Et ça se mange.
Vous pratiquez le futsal?
Oui, j'ai beaucoup... Bah, j'ai toujours été... Alors, je vais me faire peut-être un peu chambrer par Hervé avec qui j'ai joué au football, mais j'ai fait beaucoup plus de football en salle...
Ah, je comprends.
...que, voilà, bon, je m'en doutais... que de football à 11. Alors c'est vrai qu'on a un peu une relation et c'est là où c'est en trompe-l'œil parce qu'on a une relation un petit peu passionnelle avec le ballon. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de touches de balle, mais en vérité le futsal ça vous permet d'être plus agile dans les petits espaces, ça vous permet de travailler en vérité les combinaisons et puis de développer une technique individuelle et on a des joueurs de futsal qui ont réussi à très haut niveau. Alors
ben
je
vais
pas vous citer les habituels, Ben Yedder, El Arabi,
J'aurais Ronaldinho.
Ah bah oui, mais là on parle de la Rolls-Royce. On a un autre niveau. Et même Zidane, vous avez des vidéos de lui.
Cristiano Ronaldo. Voilà.
Et donc c'est quelque chose qui s'est vachement démocratisé parce qu'il y a aussi une question d'espace. On a besoin de terrains beaucoup moins grands que des terrains à 11.
Mais le ballon est plus petit d'ailleurs.
Le ballon est plus petit. C'est donc les surfaces de contact sont plus importantes avec le pied dans le futsal. Que dans le football, on joue beaucoup de la semelle, par exemple. Il y a beaucoup de.
En Afrique, c'est pour ça qu'en Afrique, vous pouvez avoir de très bonnes équipes, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent sur des terrains, des petits terrains, hein, ce qu'on appelle par exemple les maracanas et choses comme ça, qui fait qu'à un moment, je pense qu'on pourrait sortir de très bonnes équipes. Il y en a une. Je crois que Joseph Antoine Bell a été président de la fédération de futsal, si je ne m'abuse, au Cameroun. Il a dû avoir même un très bon résultat lors d'un tournoi.
Moi, je me souviens de Joseph Antoine Bell avec le foot de sable. Hein,
moi, gardien
de
sable. Moi, gardien de but.
Le beach soccer.
Beach soccer. Ouais. Mais enfin, toujours est-il que tous ces éléments différents du foot classique, c'est vrai que ça peut être intéressant.
Alors, ça donne du style, comme vous le dites, hein, parce que c'est vrai que c'est aussi une superbe école de dribble et de.
Bah, regardez, par exemple,
d'être usé.
Je parlais de Mahrez tout à l'heure, là, qu'une fois j'avais fait en interview, je me dis, je joue au ballon comme je joue à la cité. Dans le sens où, effectivement, comme ils jouent dans le foot à 5, quand ils reviennent, vous avez des joueurs ici, quand ils reviennent de première ligue et tout, ils font des fives, ils appellent ça des fives avec leurs copains. On a déjà surpris, par exemple, Ben Arfa, aller faire des foot à 5 à Aubervilliers, quoi. Donc il y a une vraie culture du football à 5.
Oui, puis maintenant, c'est vrai que dans les zones urbaines, on sait que Zidane notamment et ses frères construisent les fameuses petites surfaces, et ça a un succès dingue, parce qu'en plus, au lieu de jouer, on a besoin d'être 10 et pas besoin d'être 20,
ou
22 d'ailleurs.
Et puis c'est même un business, hein, disons-le, il y a des footballs qui se sont lancés, des joueurs, vous l'avez dit avec Zidane, on en a d'autres également qui ont investi, Jean Calvé. L'ancien Canet, je crois, du côté
Florent
de
Balmont, si je ne m'abuse, dans le Nord aussi. Dans le Nord, il y a pas mal de joueurs qui avaient fait ça.
Donc voilà.
En tout cas, sur la compétition européenne et les nations et les puissances, parce que donc la France va essayer de faire bonne figure, j'imagine. Mais
mais ça va être compliqué. C'est la première participation à l'Euro. Hein, faut-il le rappeler, l'équipe de France par rapport aux autres grandes puissances. Ouais. On évoquait l'équipe d'Espagne,
le Portugal,
le Portugal. Même si le Portugal gagne peu, en fait, il y a le meilleur joueur du monde qui est donc Ricardinho, qui a encore
obtenu le titre
meilleur
de meilleur
du monde, c'était Falcao.
Mais Ricardio, et même le au-dessus, Brésilien. Il a gagné 5 titres là au Falcao, il n'a gagné que 4 des ballons d'or, entre guillemets.
Mais il connaît la famille de Laporte et le foot en salle. Non, mais Ricardio, sur le bout des doigts,
Ricardio, il vient de gagner. Il y a
d'ailleurs, c'est
4 d'affilée pour lui, même si Portugal gagne peu. Vous avez l'Italie également qui, avec ses Brésiliens naturalisés, d'ailleurs, vous avez beaucoup de nations qui ont des Brésiliens naturalisés. En Italie, c'est Merlin qui est l'équivalent de Robben, vous savez, celui qui est sur côté droit et qui repique dans l'axe. L'Azerbaïdjan a également ses Brésiliens. La Russie a également ses Brésiliens naturalisés.
Et nous, je vois que notre meilleur joueur, c'est Ramirez.
La Russie, par exemple, qui a fait finale du dernier mondial. La Russie qui a fait finale du dernier mondial face à l'Argentine avec ses Brésiliens. Le seul problème de la Russie, c'est qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont vieillissants et ils n'arrivent pas à les renouveler. Finalement, on n'arrête pas d'en discuter.
Non, mais attendez, c'est le championnat du Brésil, votre histoire.
Mais vous êtes sûr que c'est le championnat d'Europe?
Non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est
que la prochaine fois, ils font ça à Copacabana sur une plage.
Totalement. Vous êtes, de toute façon, on sait que le Brésil, en termes mondial, avec l'Espagne, ce sont les deux meilleures nations. Même si elles ont déçu lors du dernier mondial. C'est pour ça que l'Espagne, on en attend beaucoup aussi de l'équipe d'Espagne. Il y a moins de stars, mais il y a un collectif comme l'équipe nationale.
L'Espagne, depuis 1996, ils ont gagné 7 titres. Et quand c'est pas eux, c'est les Brésiliens d'Italie. Si on vous écoute bien. Et sinon, effectivement, une fois la Russie. Et sur la scène internationale, on retrouve.
Mais je vous dis, il y a eu la déception vraiment lors du dernier mondial où l'Espagne et le Brésil n'ont même pas été dans le dernier carré. La finale, c'était Argentine-Russie, l'Iran qui a fini troisième.
Mais enfin, en Iran, il y avait deux naturalisés aussi.
Mais bien sûr qu'il y en avait des naturalisés. C'est pas une blague.
Non, mais c'est à suivre cette compétition, voir si ça peut attirer des annonceurs, s'il peut y avoir de l'argent, les audiences. Et à mon avis, dans 5 ou 10 ans, ça se trouve, on va en reparler autrement.
D'ailleurs, c'est sur l'équipe, je crois.
Non, mais
totalement.
Il y a une page dans le journal, dans votre journal.
Absolument.
En tout cas,
sur une chaîne nationale, quoi.
Effectivement, oui. Le futsal et le beach soccer, la FIFA l'a un peu fagoté, hein. Elle parraine, mais il y a plein d'autres compétitions où on joue au ballon et où on ne s'est pas encore rentré dans le sérail de la FIFA. Vous parliez tout à l'heure de foot Maracana qu'on avait suivi sur RFI. Il y a le tennis ballon.
Oui, mais après, justement, la FIFA est patiente aussi. Le futsal, ça ne l'était pas encore dans le giron de cette UEFA et FIFA il y a quelques années.
Surtout que la FIFA, le futsal, ils savent de quoi ils parlent.
Mais la FIFA a compris ça petit à petit et a compris l'argent que ça pouvait générer avec surtout les populations que vous pouvez viser, le Brésil, l'Espagne, enfin tout le continent européen et l'Afrique potentiellement.
Et c'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à David Finzel et Guillaume Ploquin qui m'ont aidé à préparer l'émission aujourd'hui.